Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission Quoi de neuf, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Voilà, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission. Notre invité s'appelle Nicolas Dessin et donc on va parler avec lui de la réindustrialisation de la France et pourquoi pas d'ailleurs de notre région. Alors on sait, notre région a beaucoup perdu en termes d'industrie. Nos fleurons, enfin on pourra revenir dessus, hein, sont partis à l'étranger ou, et ne sont pas revenus. Et donc voilà, avec Monsieur Nicolas Dessin, nous allons parler de ces forces françaises de l'industrie qui se déploient en région et qui ouvrent une antenne à Lille. Alors quand et pourquoi, les buts et puis les objectifs à atteindre dans un court terme ou un long terme, comment on voit les choses? Bonjour Monsieur Dessin.
Bonjour Monsieur Laverne.
Alors, donc c'est effectivement, on se rend bien compte actuellement qu'on a perdu quand même beaucoup d'industries et que ce qui reste en termes d'économie, avec l'époque, on a délégué à d'autres pays la responsabilité d'une certaine manière, la capacité à produire pour nous. Après, évidemment, ces produits, on les récupère, moins cher peut-être qu'on ne les produirait nous-mêmes, c'est un peu l'idée. Au passage, certains font plus de bénéfices en délocalisant en tant qu'entreprise qu'à rester sur place. Et bon, les buts des entreprises, c'est de gagner de l'argent. Après, comment elles voient l'aspect par rapport au pays dont elles sont issues, c'est encore un autre débat. Donc voilà, les problèmes sont vastes. Et donc, réindustrialiser la France, on sent qu'on est dans une urgence. On sent aussi qu'on a des grandes failles dans notre système de production. Et là, avec la période Covid, etc., on voit bien qu'il y a des choses qu'on ne sait plus faire, on n'a plus les outils, et que tout va à l'étranger, et qu'à ce moment-là, quand il y a des ruptures de stock ou des ruptures de production complète, on est vraiment mal en point. On l'a vécu durement, là, M. Toussaint.
Oui, oui, je suis d'accord avec vous sur ces constats. Maintenant, l'idée étant qu'il faudra tôt ou tard que ça revienne. Il semblerait que nos gouvernants actuels aient pris conscience de la situation et que les choses se mettent en place pour qu'effectivement, inverser un petit peu la tendance. Mais oui, c'est plus possible.
Ouais. Voilà. Donc en fait, quand on parle d'une économie, on parle souvent de produit national brut, mais on parle aussi de ce qui rentre et de ce qui sort. Là, il se trouve qu'en région, on a peut-être un déficit commercial, sans doute, non?
Il est même à l'échelle de la France. Les chiffres sont sortis là récemment. Je crois qu'en en cumul sur l'année, on doit être à moins 900 milliards de balance commerciale, quand des pays pas très loin d'une autre, hein, l'Allemagne est à plus 3600 milliards. Donc quelque part, il n'y a rien d'inéluctable. Ils arrivent à faire ce que nous, on n'a pas su faire et ce qu'on entend à vouloir faire.
Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut copier ce qui se fait ailleurs et qui fonctionne? Et si on ne peut pas, est-ce qu'il y a des raisons structurelles ou en termes d'habitude ou de voilà, qu'est-ce qui pêche en France pour que les industries redeviennent compétitives?
Ce qui pêche, il faudrait remonter aux racines du mal. Je pense déjà que la structure des entreprises françaises et allemandes, si on veut copier le modèle allemand, sont pas exactement les mêmes. On est en France sur des entreprises qui sont plutôt de type familial, dans lesquelles on a peine à ouvrir le capital à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Allemagne. Si on prend le tissu industriel allemand et français, on doit avoir quelque chose comme 5 000 ETI en France quand il y en a 12 000 en Allemagne. Quelque part, on n'a pas su investir quand il fallait. Et donc voilà. Ouais.
Après, quand je vois la production des voitures, hein, avant on faisait quand même pas mal en France. Là, on fait peut-être encore quelques pièces, mais en gros, tout va à l'extérieur en termes de production.
Alors, il y a des exemples. En fait, effectivement, on a gardé en France la production de certains monospaces et de berline. Néanmoins, les modèles qu'on va appeler des modèles citadins ont été délocalisés, mais pas forcément très très loin. Hein. Vous prenez, il y a beaucoup de production de citadines en Espagne notamment, au Maroc, pour Renault, je crois. Et d'autres qui sont partis en Allemagne, en Pologne ou en Roumanie. Alors qu'à l'inverse, Toyota nous montre qu'on est capable de produire une Yaris en France, à Onin, à côté de Valenciennes, pas très loin d'ici, et dans des coûts qui restent raisonnables. Donc, quelque part, quand vous prenez le coûtant d'un véhicule, bon, il y a effectivement les matières, il y a l'usinage, si on veut faire simple, l'usinage, l'assemblage. Je vous ai parlé des détails sur la peinture, la tôlerie, la soudure et autres. Et puis, il y a la manœuvre. Et on a l'impression que certains industriels français ont vu effectivement la main-d'œuvre et le coût de la main-d'œuvre française comme étant le principal facteur dans la décision pour la délocalisation, alors que d'autres en face ont mis au contraire des moyens pour peut-être produire mieux et donc pouvoir maintenir ça. Il n'y a pas de raison que Toyota y arrive avec sa Yaris et que Peugeot n'y arrive pas avec sa 208 ou Renault avec sa Clio. Donc c'est possible.
Alors, c'est possible si on s'adapte à un marché qu'on imagine porteur. Si on fait des choses qui ne servent plus à rien ou qui sont vouées à disparaître, ça ne sert à rien d'investir dans des choses...
Si on prend ces modèles citadins dont on vient de parler, il suffit de regarder sur Faux Parking ou même sur les routes. Hein, la Clio se vend très bien. Je crois que c'est la meilleure vente de véhicules en France. La 208 se vend très très bien également. Donc il y a un marché en France et en Europe pour ces véhicules-là. Donc clairement, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été faites pour faire. En fait, c'était peut-être la solution de facilité. Après, moi, je ne suis pas dans ces grands groupes-là, ni dans leurs organes décisionnels. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a motivés à faire ça. On a tendance à penser que ce sont les coûts de main-d'œuvre et les charges qui les ont poussés à délocaliser. Mais je vous dis, je prends l'exemple de Toyota, qui nous montre qu'on peut produire un véhicule citadin et dans des tranches de prix qui sont à peu près les mêmes. Je crois que j'avais lu quelque part que la Clio ou la 208, enfin je ne sais plus, mais en gros, produire en France ou en Roumanie, c'était un gain de 1000 euros de main-d'œuvre et charges comprises.
Mais en même temps... Si on voit l'économie carbone, on va dire, produire localement, c'est quand même quelque chose qui mérite un certain respect.
Ah ben moi je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, c'est pas moi qui veux le dire, c'est à eux. Donc voilà, non mais je veux dire, après il y a une prise de conscience aussi pour eux. Enfin, il faut qu'ils prennent conscience d'eux. Après, effectivement, je suis pas dans les rouages industriels, je sais pas quels sont leurs coûtants, ni leurs objectifs de marge et autres. Est-ce que la marge de Toyota est meilleure ou moins bonne que celle de Renault et Peugeot? Je n'en sais rien. Néanmoins, il devrait être possible de le faire.
Alors, c'est vrai qu'en France, je sais pas si c'est une réalité, en tout cas, on le prétend, les gens qui travaillent en France sont assez compétents par rapport à ce qu'on leur donne de faire comme travail. Ils ont en général un bon rendement en termes de qualité. Est-ce que c'est quelque chose qui se confirme ou bien c'est une image de l'esprit, une vue de l'esprit?
Non, c'est ce qui se dit. Moi, je pense que... Enfin, je suis d'accord avec vous. Clairement, on vante souvent les mérites de cette main-d'œuvre qualifiée. Le souci, c'est qu'avec ces délocalisations, on la perd, en fait.
Mais aux États-Unis, je suppose que la situation n'est pas forcément meilleure en termes de coût de main-d'œuvre.
Je ne connais pas aussi bien que ça l'économie américaine. Non, mais ce que je sais, par exemple, c'est que certaines usines frontalières font appel à des travailleurs mexicains pour baisser leurs coûts. Néanmoins...
Les Allemands ou Turcs, peut-être, non?
Oui, avec les Turcs ou d'autres pays, effectivement, qui sont limitrophes aussi, bien sûr, oui. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. On a souvent vanté la qualité de la main-d'œuvre française. Après, il ne faut pas non plus perdre de vue aussi quelque chose, c'est que on la perd du fait des délocalisations, on la perd du fait de départ à la retraite, et on les perd également du fait d'un manque de formation. Moi, j'entends souvent des clients ou des entreprises avec lesquelles je discute me dire qu'ils peinent à recruter. Ils ont des offres d'emploi qui ont 3 mois, 4 mois, ils ne trouvent pas de candidats. Parce que X ou Y raison, mais on a un manque de main-d'œuvre technique. Alors, chez les jeunes notamment. Hein.
C'est vrai que les métiers du technique ont été un petit peu méprisés à un certain moment. Or, ce sont des super métiers. Enfin, moi, je suis allé rencontrer des apprentis ou des gens comme ça qui travaillent dans des lieux de formation professionnelle sur des outillages et tout, très élaborés. Et ils se plaisent. Hein. Je veux dire, ce n'est pas des métiers qui sont déplaisants pour certains.
Il y a des super métiers. Enfin, moi, je cite souvent les métiers de bouche, les boulangers, les pâtissiers, les bouchers, c'est des super métier. En face de ça, vous avez des métiers dans l'industrie qui peuvent être super sympas, avec un thème qui nous est cher également, c'est l'ascenseur social. Vous commencez simple manœuvre, et puis vous montez au fur et à mesure les échelons, vous devenez contremaître, chef d'équipe, et pourquoi pas plus tard directeur de production. Enfin, je veux dire, ça a eu marché à une époque, il n'y a pas de raison que ça ne marche plus aujourd'hui. Enfin, je veux dire,
Alors, c'est vrai qu'on ressent moins peut-être ce qu'on appelait l'aspirateur social,
ou
l'ascenseur social.
Ouais, c'est ça.
Et donc, on a perdu un petit peu de ces perspectives quand on explique à un jeune qui sort d'un lycée, par exemple, que son diplôme, il ne va peut-être pas forcément lui être utile très vite, qu'il va falloir se reformer, se requalifier pour être opérationnel dans des métiers qui ont évolué beaucoup aussi.
Oui, mais là, vous évoquez, je pense, surtout le cas des filières qui sont générales. Mmh. Je veux dire, combien de fois on a-t-on entendu que certains jeunes qui ont des diplômes à bac plus 5, 6, 8 trouvent pas de poste parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Mmh. Donc évidemment, c'est compliqué. À l'inverse, les métiers du technique offrent à ces jeunes des stages, outre les stages, de l'alternance aussi. Mmh. On trouve beaucoup d'alternance dans les métiers techniques. Oui. Et effectivement, ça permet de former. J'étais dans une entreprise hier sur Abbeville qui me disait après le Covid, on a dû fermer. Arrive l'été où on doit avoir des congés et autres. On a de la demande, clairement. On avait de la demande en production. Et heureusement on avait les enfants de nos salariés qui étaient là et qui ont pu dépanner en intérim un mois, deux mois pour permettre d'assurer la production. Et en fin de compte, lui, comme l'autre client que j'ai vu hier matin, me disait en fait, on prend des jeunes qu'on forme parce que les métiers dont on a besoin n'existent pas aujourd'hui. Enfin, la formation n'existe pas. Le premier client chez qui j'étais ce matin, dont je viens juste de vous parler, là, fabrique des boutons. À Bernaville, dans la Somme, ces boutons, il faut les teinter. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation qui vous apprend à faire à l'œil une teinte pour des boutons. Et en fait, ils prennent des jeunes qui te forment, parce qu'effectivement, il faut un long temps, il faut déjà 2 ans pour apprendre une première teinte, pour que l'œil sache définir quel est le pourcentage de tel produit ou tel produit à mettre pour faire la teinte. Et ensuite, viennent les autres couleurs. Et aujourd'hui, quand l'ensemble de ces salariés actuels vont partir à la retraite, s'ils ne sont pas pris en amont suffisamment tôt pour former des jeunes, c'est une boîte qui ne pourra plus produire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, je pense que dans l'idée, plutôt que faire partir les gens à 70 ans, maintenant on imagine des choses bizarres, on pourrait consacrer leurs dernières années d'activité à former des jeunes.
Ah oui, bien sûr, mais ça, je pense que ça se fait déjà aujourd'hui, entreprise par entreprise, bien évidemment.
Et peut-être favoriser ça, en termes d'économie, pour favoriser l'accueil des nouveaux, pour les mettre en phase avec la reprise, on va dire, des métiers. Voilà. Donc, est-ce qu'on a une idée actuellement, est-ce que par rapport à l'industrie, ce qui se délocalise et ce qui se relocalise, de la balance, ou est-ce qu'il y a encore une vraie fuite ?
Moi, j'ai pas les chiffres précis. Les derniers que j'avais, effectivement, faisaient état d'encore un déficit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va vous faire la promotion d'une entreprise de vélo qui revient dans l'Est de la France, d'une entreprise de chaussures qui se remonte en Ardèche, d'un grand laboratoire qui revient en France pour produire des éléments actifs de molécules que l'on utilise tous les jours, de l'aspirine et autres. Maintenant, effectivement, ce qu'on ne vous dit pas, c'est combien d'usines ont fermé en face. Effectivement, il faudrait pouvoir le suivre précisément pour se rendre compte, mais vous voyez, il y a encore 2 mois de ça en arrière, je pense. C'était juste avant l'été. Deux fonderies ont fermé, mettant sur le carreau 200 personnes d'un côté, 150 de l'autre. On ne peut pas laisser faire ça. L'État, les régions, enfin, je sais pas, les pouvoirs publics doivent en tout cas... Parce qu'une fois que c'est fermé, quoi.
Alors c'est vrai que du côté des régions, on arrose parfois l'industrie, hein, des hauts niveaux pour les aider à s'implanter. Et après, elle nous lâche, elle nous claque dans les doigts.
Vous aurez toujours des vilains canards. Enfin, je veux dire, clairement, on a tous en tête des exemples. Il y a très 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 longtemps, je crois que c'était Thomson, qui avait bénéficié d'aides pour implanter une usine en France, et qui, une fois qu'il avait croqué toutes ses aides, était parti.
Bah, il y a les pneus là, du côté de Béthune, ou des choses comme ça. Hein, je veux dire,
oui.
On ferme, voilà, et on prend l'argent et on s'en va, quoi.
Ouais, alors Béthune, je pense que le problème, il est plus large que ça. Déjà... Pareil, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, hein, je suis pas un spécialiste du pneumatique, mais je crois qu'ils étaient sur une gamme de pneus en 14 pouces, qui n'est pas la gamme la plus consommée, en tout cas en France, voire en Europe. Enfin, 14 pouces, faut se rendre compte, hein, aujourd'hui, on est plutôt sur des 17-18 pouces.
Mais justement, pourquoi on met des productions dans une impasse au lieu de préparer l'avenir en local, quoi?
Mais il faut interroger les Japonais en question, moi j'en sais rien. Moi j'en sais rien, mais clairement, aujourd'hui, en France, on vend beaucoup d'SUV, on vend beaucoup de voitures... comment dire, comme le 3008, donc des voitures, j'ai plus le terme en tête, mais ce genre de véhicule-là, ou même des berlines en 17-18 pouces, le 14 pouces, même une 208 ou une Clio dont on parlait juste avant doivent être équipées minimum en 15 pouces, quoi. Donc il ne reste plus beaucoup de véhicules en 14 pouces. Enfin, je veux dire, clairement, ce sont aux dirigeants de cette usine-là à se dire voilà où est le marché, voilà ce qu'on doit faire pour aller produire ces pneus qui vont équiper les véhicules de demain. Mais c'est à eux d'avoir ces réflexions-là. Et là, on ne parle même pas de coût de production de ci ou coût de production de ça. Je veux dire, c'est un objectif industriel qui est de dire on va réorienter notre production. Enfin, j'insiste, hein, je ne connais pas leurs outils, leurs machines et autres, mais qu'est-ce qu'il faut modifier sur une machine pour passer de la production d'un pneu de 14 pouces à 16 ou 18 pouces, quoi.
Donc voilà, il y a cette idée de prospective aussi sur les marchés de demain, comment on les accompagne, comment on forme les gens aussi dans l'entreprise pour changer un petit peu les formats des choses. Et quand on implante une usine, voir un petit peu ses objectifs à long terme et ses capacités, puisqu'on les aide à s'implanter.
Oui, non, mais je veux dire, clairement, c'est à chaque chef d'entreprise, ou en tout cas directeur d'usine, si on parle de ces gros-là, de se poser ces questions-là. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai lancé mon activité il y a 10 ans, j'ai fait ma propre étude de marché. Je vous dis pas que ce que j'avais mis sur le papier s'est réalisé à 100%. Je me suis trompé, mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et je me suis trompé, c'est-à-dire que je pensais X, il s'est passé Y, je pensais Z, il s'est passé A. Mais au-delà de ça, j'ai réajusté le modèle économique pour arriver à la formule qui marche aujourd'hui. À eux de faire la même chose. Après, effectivement, ce que vous évoquez, vous, c'est plus le fait de dire, voilà, je voudrais implanter une usine, je vais avoir besoin de autant de lignes de production, ça va permettre de créer autant d'embauches. Et effectivement, il y a des aides qui existent pour aider ces gens-là. Mais c'est à eux, au point de départ, enfin au départ du projet, c'est à eux de se poser des questions, de savoir ce qu'ils veulent vendre, comment ils veulent vendre, par quel circuit de distribution, à quel prix, et autres. Enfin, je veux dire, ça c'est...
Alors c'est vrai qu'une petite entreprise, on dit souvent qu'un premier essai, s'il n'est pas concluant pour un chef d'entreprise, ce n'est pas très grave, c'est une expérience.
Oui.
Alors qu'une grosse entreprise qui se plante, a priori, c'est beaucoup plus dramatique et ça engage beaucoup de personnes dans une chute.
Oui, mais après, c'est de vous à moi, c'est un avis purement personnel, mais je ne pense pas qu'une entreprise nouvelle arrive sur un territoire donné en se disant « je vais embaucher 1000 personnes de suite hein, ». Je veux dire, chaque entreprise, les grosses entreprises, celles que vous citez dans le pneumatique, sont des entreprises qui, au démarrage, sont parties de 10, de 20, de 50 personnes. Et au fur et à mesure, elle a grossi. On a des super exemples dans la région, au niveau de la distribution. Je pense à Auchan notamment, ou à Carrefour, qui est né en région parisienne, ou Leclerc. Je crois que c'était plutôt en Bretagne ou dans l'ouest de la France. Mais au démarrage, c'était des épiceries. au démarrage, c'était des épiceries. Donc, ils ont démarré, quand Mully a démarré, ou quand Michel-Edouard Leclerc a démarré, enfin son père, ça a démarré avec 5-10 personnes, et puis ensuite, il a construit un grand truc, un grand machin, enfin, voilà. Donc, se planter, c'était planter 10 personnes ou 20 personnes. Je dis pas que c'est pas grave.
Mais à côté de ça, la redoute, etc., ils n'ont pas arrivé à tourner, quoi. Après, une fois qu'ils ont eu... leur catalogue, etc., qui marchait bien pendant un moment. Après, bon, c'est tombé.
Non,
ils ne sont pas adaptés autant, non ?
Non, ouais, mais ce sont deux choses différentes. Enfin, je veux dire, la Redoute, c'est encore autre chose. La Redoute et Trois Suisses, ce sont deux choses différentes. C'est ces deux entreprises qui étaient très florissantes dans les années 80-90. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, on l'avait une fois par an, on l'attendait, le catalogue. Et on allait chercher les vêtements, les chaussures. On l'attendait. Et effectivement, Internet a révolutionné un petit peu tout ça. Il y a un virage qu'ils n'ont pas su prendre,
ouais.
et qui a fait qu'effectivement, elles ont beaucoup souffert. Maintenant, je n'ai pas la prétention de connaître leur histoire par cœur, mais de ce que j'en sais, la Redoute est au bord du gouffre. Ses dirigeants ont racheté au tribunal de commerce la boîte pour pas grand-chose. Et aujourd'hui, ces deux personnes-là ont complètement transformé le business, le modèle économique. Et aujourd'hui, la Redoute redevient une entreprise florissante. Mmh. Juste, elle produit certaines de ces choses, ou elle fait produire certaines de ces gammes. Je pense notamment à MPM, qui doit être la marque destinée à la maison, à la décoration, j'entends, et à l'ameublement. Et même au niveau du digital. Ils ont réinventé leur modèle.
Mmh. Mais en même temps, à leur époque, c'était assez révolutionnaire et ils avaient anticipé d'une certaine manière la vente par correspondance, qui est maintenant très développée avec d'autres boîtes qui sont venues.
Et puis je pense qu'à l'époque, ils ont aussi inventé des choses, notamment au niveau de l'organisation logistique. Enfin, les entrepôts, je crois que c'était un Trois Suisses qui était à Croix. Enfin, il fallait voir la taille du truc, Ou dans la zone de l'ERS, des chaînes automatisées et autres. À un moment donné, ils ont créé, ils ont inventé, on parlait tout à l'heure de productivité dans l'automobile, mais ils ont inventé des choses qui leur a permis effectivement de faire. Juste, il y a un virage qu'ils ont peut-être pas au mal anticipé. Et voilà, donc après il y a deux solutions, hein. c'est vivre ou mourir, et ils étaient au bord de mourir, et finalement ils ont trouvé un second souffle, et je pense qu'aujourd'hui les choses vont beaucoup mieux pour eux, et grand bien leur fasse.
Donc, Monsieur Nicolas Dessin, votre structure, est-ce que c'est une forme associative ? Comment vous fonctionnez ?
Non, on n'est pas associatif, on n'est pas formé en association, enfin on parle des forces françaises de l'industrie, puisque qui dit association dit éventuellement financement public, et nous on voulait pas dépendre de financement public, donc on est créé comme une entreprise, et donc voilà, c'est un club... basé autour du Made in France.
Donc vous êtes nombreux ?
Alors aujourd'hui, on compte 150 membres.
En France. Ouais.
Donc c'est un mouvement qui est né il y a un peu plus de 2 ans maintenant, dont le développement a été un petit peu freiné par la crise du Covid, puisqu'effectivement, l'un des éléments ou des événements les plus fédérateurs, c'est quand on se retrouve en physique, dans un restaurant, pour échanger, réseauter et autres. Et effectivement, ça a été un petit peu mis à mal avec tout ça. Il y avait quelques idées de développement, entre guillemets, en région, qui avaient été évoquées et qui ont été là aussi freinées. Et aujourd'hui, ça redémarre, puisque effectivement, on a une antenne qui a ouvert à Toulouse le 6 juillet, à Clermont-Ferrand le 8. Moi, je m'occupe avec Séverine Tréfouel du lancement donc de l'antenne de Lille, qui va donc démarrer demain. Et la semaine prochaine, on a Aix-Marseille qui va ouvrir. Et la semaine suivante, on aura Bordeaux. Suivront Nantes au mois d'octobre et les Hauts-de-Seine, octobre ou novembre aussi. Ouais.
Voilà, donc vos forces françaises de réindustrialisation, on va dire ça comme ça, elles sont à la fois des financeurs et des conseilleurs ?
Il y a un petit peu de tout, en fait. Les forces françaises de l'industrie, c'est un certain nombre de choses. On a effectivement... l'idée, c'est qu'au départ, donc, c'est un club d'entreprises et d'entrepreneurs qui peuvent échanger sur des problématiques communes, qui peuvent se filer des tuyaux, qui peuvent éventuellement faire du business ensemble, puisque, effectivement, le principe d'un club, c'est aussi de faire du business. À côté de ça, on a... Un vecteur d'accompagnement d'entreprise, plutôt en mode start-up. L'idée, c'est de les accompagner dans leur développement, tant sur la partie commerciale, recrutement, financement et autres. On a un vecteur également de financement de PME qui s'appelle le French Touch Fund, avec donc effectivement des levées de fonds qui se font ponctuellement pour investir dans des PME françaises. Et puis on fait également des événements en distanciel avec effectivement des gens qui viennent présenter des choses aux membres en distanciel.
Alors, au travers de l'ensemble de ces entreprises qui, on va dire, s'unissent d'une certaine manière, qui partagent leurs forces et leurs compétences, là, est-ce que peuvent se dégager, par exemple, des idées d'orientation dans la région et de formation nouvelle pour favoriser justement les besoins par rapport à des projets réels, concrets ?
Le but aussi, et pas seulement de se voir et de partager un bon repas, c'est aussi de partager donc ces problématiques-là, mais également des bonnes idées. Il n'est pas exclu, on savait très bien qu'on va bientôt rentrer en campagne présidentielle, il n'est pas exclu qu'on travaille sur des choses et qu'on aille les soumettre aux uns et aux autres. On a travaillé il y a quelques mois sur la rédaction de ce qu'on a appelé un PME Business Act, l'idée étant de faire un peu évoluer... la commande publique et d'essayer de favoriser les entreprises françaises.
Voilà. Donc, dans les projets immédiats, vous avez quelles réalisations en vue ?
Là, ce dont je viens de vous parler, l'ouverture de Lille, de Bordeaux et de...
Et vous avez besoin de qui et de quoi ?
On a besoin de bonne volonté, on a besoin de gens qui produisent en France, de besoin de gens qui adhèrent à nos valeurs, qui sont celles de... Alors, on sait très bien que tout peut pas se produire en France, hein, soyons clairs, mais si vous augmentez un petit peu votre panier d'achat en France, évidemment, ça ne pourra qu'à terme, ça ne pourra à terme que bénéficier aux industries françaises, donc...
Alors là, je vois déjà des gens qui ne sont pas allés en vacances à l'étranger. Ça a gardé un peu d'argent en France pour les entreprises, hôtellerie, etc. Est-ce que dans le domaine de la consommation, on peut aussi dire aux gens de regarder un peu ce qu'ils achètent et d'où ça vient ? Mais encore faudrait-il que ça existe en France ? Comment on peut identifier tout ça ?
Non, mais il y a des choses. Hein, pour des produits laitiers. Alors là, il y a un combat qui vient de se gagner, je pense, par un gros industriel qui a obtenu qu'on arrête de mettre l'origine du lait dans ses produits. Et je trouve que c'est. Je crois qu'au niveau européen, on n'aime pas trop ça. Mais pourquoi pas imposer, nous, la chose en France, déjà. Mais j'insiste, là, ça vient par contre de tout là-haut. Ce sont nos gouvernants qui doivent prendre ces décisions-là et faire.
Alors, je vois qu'il y a des entreprises dans la région hein, qui produisent des choses, notamment dans l'agroalimentaire, qui ont des certificats, qui ont des labels, qui sont organisés pour créer leur propre label de reconnaissance, de qualité, et peut-être aussi en production régionale. Est-ce que ça a un sens pour vous ?
Ouais, ça a un sens. J'insiste, c'est mon avis personnel que je vous donne. Là où on perd peut-être un petit peu de sens, c'est qu'il y a beaucoup de labels qui se mettent là. Et effectivement, à un moment donné, comment le consommateur peut s'y retrouver, c'est autre chose. Après, les labels ne sont pas menteurs. Mais je veux dire, quand vous dites « produit en Hauts-de-France »,« produit en France », »,« produit à Roubaix », à un moment donné, saveur en or, nos territoires ont du talent. À un moment donné, on aura bientôt plus que des labels sur nos emballages. Et ça va poser un souci de lecture. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais non, le label est une bonne chose, effectivement. Et en même temps, je pense que ça oblige aussi le producteur à, en tout cas certains labels, pas tous, hein, mais en tout cas à être carré quelque part aussi. C'est-à-dire que à être structuré, à suivre, à tracer. C'est important, la traçabilité.
Donc on voit même dans les restaurants, cette viande a été élaborée à partir d'un animal qui a qui est né là, qui a mangé là, qui a été... On a poursuivi son élevage là.
Oui, mais en même temps, on impose au restaurateur des normes qu'on n'impose pas à certains industriels. Enfin, je veux dire, le restaurateur a obligation de vous mentionner quels sont les produits qui sont faits maison de ceux qui ne le sont pas. Donc, quelque part, moi, je ne vois pas pourquoi un géant laitier ne devrait pas afficher d'où provient son lait, quoi.
Alors, là, on parle quand même de certains secteurs. Hein, je pense à l'agroalimentaire où la France n'est pas la dernière de la classe, quand même.
Non. Et c'est même un secteur qui est hyper dynamique. Enfin, moi, j'ai fait un petit tour de France là pour ces vacances. Je suis passé par la Vendée notamment. Enfin, vous avez même dans des villages entre guillemets paumés une grosse usine Fleury Michon qui est là pour telle et telle gamme de produits. L'Ouest de la France est très dynamique là-dessus. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de main d'œuvre et de qualification de main d'œuvre. Enfin, je veux dire, ce sont des régions qui sont gourmandes en main d'œuvre et qui sont demandeuses, qui sont en déficit de main d'œuvre et qui viennent chercher de la main d'œuvre dans d'autres régions en leur faisant des ponts d'or pour que les gens viennent s'établir en famille dans ces coins-là. Donc, au travers de l'industrie ou de la réindustrialisation de la France, il y a aussi une notion de gestion du territoire, d'aménagement du territoire.
Bien sûr, ces entreprises, elles exportent aussi pour beaucoup, bien sûr, dans des grands pays, et donc il y a de la demande aussi.
Bien sûr.
Je pense qu'en agroalimentaire, je ne pense pas que la demande se tarisse très vite quand même.
Non, au contraire, on l'a vu aussi là avec les confinements, ce sont des gens qui ont certes plus vendu en restaurant, mais qui vendaient quand même en domicile. On a ce qu'on appelle des conserveries, on en a d'ailleurs une qui est régionale, Bonduelle, mais on a également Dossi, qui sont deux grosses entreprises de l'agroalimentaire, si je suis là. Après, il y a des plus petites, je pense notamment à Kerlis en Bretagne, je pense à Gilet-Contre dans le 37, en Indre-et-Loire, pardon. Et d'autres plus petites dans le sud de la France, on peut penser à Cabanon et Serratatouille, on peut penser à des gens comme ça, ouais.
On parle de modifications climatiques, on peut imaginer que la France pourrait être relativement un pays où on puisse encore produire des choses dans l'agroalimentaire sans au départ trop de difficultés par rapport à d'autres où il y a vraiment des catas. Hein.
Oui, mais après, des catas, il peut nous en tomber sur le coin du nez tous les jours. Enfin, vous voyez ce qui vient de se passer dans le Gard hier soir. Ouais. Non, dans l'idée, on ne doit pas, je dirais, aménager son champ en fonction de la météo qui va tomber. Enfin, je veux dire, on a un climat qu'on connaît en France, de manière générale. Après, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir ça et là des épisodes un peu plus catastrophiques, mais ça ne doit pas nous empêcher de poursuivre une production déjà existante ou au contraire d'en amener d'autres. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tous ces agriculteurs du bio n'existaient pas il y a 5, 10 ans, 15 ans, enfin, que sais-je. Ça ne les a pas empêchés de se lancer dans un projet aujourd'hui de couvrir des hectares et des hectares avec ces produits-là.
Alors, notre région Hauts-de-France, c'est quand même une grande région d'agriculture.
Oui.
Et de transformation aussi,
hein,
de produits destinés à la vente, à la consommation. J'avais interviewé à un moment donné des gens qui faisaient des pommes de terre pour les frites d'un tel, un tel, un tel. C'est pas du tout les mêmes pommes de terre qu'on achète, nous. Hein.
Non.
Donc voilà, il y a des filières, des réseaux, et ils sont parfaitement adaptés au niveau par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme des atouts de notre région, Hauts-de-France, hein, justement, pour attirer les entreprises et pour refixer peut-être celles qui sont en train de dégager un peu vers l'étranger et réintégrer quelques-unes d'entre elles qu'on imagine bien adaptables ou réadaptables à un contexte.
Je ne peux pas vous dire précisément cette question-là. Si on parle de l'agriculture et de l'agroalimentaire, enfin voilà, de ce que nos champs nous permettent de faire, nous, ici, dans le Nord, on n'est pas un grand... On n'est pas une grosse région productrice de vignes, par exemple, de vin.
Ça, c'est clair.
Nos terres s'y prêtent pas, notre climat s'y prête pas. Mais effectivement, on est très fort dans la pomme de terre, dans la betterave et dans d'autres produits comme ça. Il y a peut-être d'autres choses à inventer autour de ça. Moi, j'en sais rien. Mais là, c'est la terre qui parle. C'est pas l'industriel qui décide que.
Après, en termes d'industrie, j'imagine qu'il y ait des formations au niveau d'ingénieur, de technicien supérieur, etc. Ça peut être un vivier de gens intéressants, soit pour créer des entreprises, soit pour créer des industries un peu innovantes.
Oui, non, mais là, de ce point de vue-là, autant sur l'aspect technique, la France a clairement un déficit dans la formation, autant sur l'aspect comment dire, des ingénieurs et autres, nos écoles sont réputées et notre formation, elle est bonne, à tel point d'ailleurs que nos cerveaux, comme on dit, partent à l'étranger. Enfin, je veux dire,
partent à l'étranger parce qu'on les paye plus à l'étranger. Alors c'est bizarre parce qu'on a à la fois on a du mal à trouver de la main-d'œuvre. À prix comment je veux dire, compétitif par rapport à des pays pauvres, évidemment. Mais par contre, par rapport à des pays riches, ben, les gens les plus qualifiés quittent la France pour trouver mieux en termes de financement.
Il peut y avoir cet aspect-là, effectivement. Mais il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est que, et j'ai un exemple dans ma famille. Moi, j'ai un cousin qui a un bac plus 8. Il est docteur en je ne sais plus quoi. Il a cherché du travail en France. Mmh. Il n'a pas l'expérience. Mmh. Aujourd'hui, il vit au Canada depuis 2 ans. Il gagne très bien sa vie. Et au Canada, son manque d'expérience n'est pas un problème.
Alors, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils prennent des gens de confiance comme ça et sur quel type...
Ah bah, il a eu plusieurs entretiens et voilà. Et puis, il y a deux autres choses. Enfin, la première, c'est qu'effectivement, il y a une formation en interne. Mmh. Okay, et puis, il y a des conditions de marché qui ne sont pas les mêmes. Enfin, je veux dire, au Canada, aux États-Unis, vous ne faites pas l'affaire. Vous prenez la porte, vous n'êtes pas embêté. En France, vous avez une non-flexibilité du travail, du code du travail, du contrat de travail, qui fait que prendre quelqu'un, vous tromper et devoir le licencier, ça vous coûte un bras. Et ça, clairement, alors là, j'insiste, hein, c'est l'homme, c'est Nicolas Donin qui vous parle, c'est pas en tant que membre des forces françaises de l'industrie, c'est mon avis personnel que je vous donne. Le problème, c'est que d'essayer de durcir les conditions de licenciement, ça va régler aucun problème. Enfin, je veux dire, clairement, plus vous mettez de barrières à l'entreprise, plus elle prend le contre-courant de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une grande frange de la population qui travaille en industrie, mais sous des contrats d'intérim, parce qu'effectivement, c'est flexible pour l'entreprise. L'entreprise a peut-être une vue sur son carnet de commandes à 2 mois, 3 mois, 6 mois. À un moment donné, si un marché se retourne et qu'elle ne peut plus donner de travail à ses salariés, elle ferme. Donc résultat, vous avez dans les boîtes un tiers, deux tiers d'intérim dans la chose. Et ça pose d'autres problèmes, puisqu'effectivement, quand vous avez un contrat d'intérim, aller chercher un prêt bancaire pour acheter votre résidence principale, c'est pas possible, ou bâtir une maison. Donc du coup, comme vous pouvez pas bâtir, bah vous êtes locataire à vie, ce qui vous ruine, mmh. Et de deux, vous faites pas de, vous bâtissez, enfin vous bâtissez pas, vous pouvez pas faire construire. Si vous faites pas construire, quelque part, c'est des chantiers qui manquent pour le BTP. Enfin, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui fait que voilà.
Alors, c'est vrai qu'on a une impression là un peu bizarre, hein, que vivre comme avant, ça va être impossible à tenir. Si on met en avant toujours consommer plus, donc produire plus, et produire des choses parfois inutiles, à recycler trop, enfin, même pas à recycler, mais dont on se débarrasse trop vite et qui pille un peu les ressources d'une certaine manière. Donc comment on se projette dans un monde, je veux dire, pas de déconsommation, mais de tarissement des ressources et où on va devoir quand même penser à ce qu'on consomme et à ce qu'on produit pour que ce soit tenable le plus longtemps possible.
Bah, déjà, ça commence au niveau de la conception des produits. Pareil, je suis désolé, on cite plein de marques dans l'émission, mais...
En citer beaucoup, c'est pas grave.
Ouais, je sais bien. Non, mais je crois qu'à un moment donné, il y a eu ces dosettes de café et les machines qui vont avec pour presser la dosette de café. Mmh. Et effectivement, les premières machines sont tombées en panne. Au prix de l'article, on s'embête pas à le réparer, on le rachète. Et effectivement, il fallait gérer le déchet. Et à un moment donné, vous avez les gens de chez Tassimo, je sais plus qui ont commencé à discuter avec les professionnels du traitement de déchets pour voir avec eux comment mieux concevoir leurs produits pour qu'ils soient mieux recyclables. Donc je pense qu'ils ont, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, hein, j'insiste, je ne connais pas tous les dossiers, mais ils ont réfléchi à ça pour pouvoir utiliser moins de matières différentes, moins de plastiques différents, et tel plastique plutôt que tel autre, parce qu'effectivement ça va mieux à concasser et à refondre et à remettre dans le circuit. De ce côté-là, je pense que même si on a encore des choses à faire, je pense que les filières de traitement, et de recyclage des déchets en France marche pas trop mal. Ça veut pas dire que tout est parfait, mais en tout cas, on n'est pas aussi en avance que certains, mais on n'est pas complètement non plus lâché dans ce domaine-là. Après, pour ce qui est de la consommation à outrance, enfin, moi, je suis souvent outré quand je vois le prix de certains produits, et on sait d'où ils viennent, hein, clairement. C'est un exemple, j'ai acheté des pistolets à eau parce que ma fille voulait jouer avec ça cet été. Le seul produit qu'on nous a proposé, c'est du Made in China, donc là, vous n'avez pas le choix de vous dire, je vais prendre un tel plutôt qu'un tel. Et au bout d'un mois, et demi, le truc ne marchait plus, quoi.
Mmh. Alors, c'est vrai que la question de la qualité des produits, enfin, moi, je connais bien la Chine en tant que lieu, enfin, espace de production aussi, hein. En fait, on trouve en Chine des choses de grande qualité et des choses qui vendent pas cher aux gens qui veulent acheter le moins cher possible.
Non, mais je vous dis pas qu'ils ne font de la crotte, hein.
Ce que je veux dire, c'est que si on leur donne un prix normal pour faire travailler les gens en Chine normalement, au lieu de presser toujours sur le coût de revient pour importer, peut-être qu'on va changer un peu la donne. D'ailleurs, actuellement en Chine, on voit bien que le marché du travail et de l'emploi, le coût des salaires augmente de 10% par an. Donc la question de la relocalisation, elle peut peut-être être aussi vue à long terme.
Ah bah oui, enfin après, oui, il y a le prix de la main d'œuvre, il y a le prix des transports, hein, le prix des conteneurs a été multiplié par 5.
Le prix aussi du pétrole, de tout ça qui va augmenter, là on sent bien que ça flambe un peu.
Ah oui, mais de toute façon c'est catastrophique. Enfin, les prix d'énergie, que ce soit du pétrole, du gaz, de l'électricité, alors j'ose espérer que c'est une bulle spéculative, voilà, et qu'elle va vite dégonfler, parce qu'à un moment donné, parti comme on est parti, à un moment donné, ça va faire mal, quoi.
Alors, cette spéculation, on la retrouve aussi sur les denrées alimentaires, pas mal, le riz, le blé, etc. Ouais. Donc, parfois, on peut justifier ça du fait des intempéries, des conditions de ceci, une année c'est comme ci, une année c'est comme ça, bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des gens qui spéculent pour que les prix doublent en 2 ans, quoi.
Oui. Mais c'est leur métier de broker. Enfin, je veux dire. Après, il y a des hausses qui s'expliquent.
Oui, bien sûr, il y en a.
Et qui se justifient, d'autres un petit peu moins. Mmh. Pour moi, l'inflation des matières premières, je pense notamment aux métaux, au bois et autres, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent là-dedans. Il y a effectivement le coût du transport, la main-d'œuvre, mais également un manque de matière qui est volontaire ou pas volontaire, mais en tout cas, à qui profite le crime, quoi.
Bah, même dans l'industrie pharmaceutique, on a vu des labos, enfin des sociétés qui tarissaient la diffusion de certains médicaments qu'elles gardaient en stock pour augmenter les prix tout de suite après, quoi. Mmh. C'est quand même des trucs de fou, quoi, quelque part.
Mais après, enfin, je veux dire, il faut s'y garder à l'esprit. Alors, mettons à part notre système social français qui veut que la Sécu rembourse un certain nombre de médicaments, mais je veux dire, ce ne sont pas des philanthropes non plus, donc c'est une industrie qui est aussi là pour gagner de l'argent.
D'où la réflexion entre ce qui est important de garder en termes d'outils de production dans un pays, quitte à le nationaliser, et d'autres à laisser ouvert au marché pour qu'il soit concurrentiel.
Je ne sais pas s'il faut repartir comme dans...
Question quand même, quand on voit des excès comme on les voit actuellement, et puis surtout, en cas de problème, qu'il n'y a pas de solution, sauf si l'État contraint de toute façon à ce que ça puisse rentrer dans les rangs pour que ça fonctionne.
Ouais,
laisser le tout venant sans conduire, d'une certaine manière, les choses, ça peut être aussi des gros problèmes à un moment donné.
Ouais. Mais moi, je ne suis pas pro les systèmes de contraintes. Je veux dire par là, je préfère les systèmes incitatifs que les systèmes répressifs. Et je pense qu'il faut aussi arrêter avec ce système de prendre aux uns pour donner aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des taxes sur votre facture de scie qui doivent permettre de financer le remplacement de vos fenêtres. À un moment donné, on brasse des milliards et des milliards d'euros de « je te pompe d'un côté, je te remets de l'autre » et puis du coup, enfin, ça devient plus possible, quoi. Il y a aujourd'hui... je crois qu'il existe quelque chose comme 1200 aides dont vous pouvez bénéficier pour votre entreprise. Donc, c'est des mannes financières à gérer en prélèvement, à gérer en reversement. Au milieu de ça, il y a des gens qui sont payés pour faire des montages de dossiers et de vérifier l'éligibilité ou la faisabilité de ci, de là. À un moment donné, il faut aussi peut-être aussi simplifier les choses. Enfin, c'est un... Tout est interrelié et c'est vraiment un système de domino. À un moment donné, je pense qu'on a besoin, on parlait du millefeuille administratif à une époque, mais ça en fait aussi partie. Quoi. Il faut simplifier un maximum parce qu'à un moment donné, on ne s'y retrouve plus. Quoi.
Donc voilà, je pense qu'il y a aussi du travail de réflexion pour améliorer les choses, pour qu'il y ait des règles un peu plus faciles à comprendre et aussi attirer des entreprises extérieures qui voudraient s'implanter en France, parce que je pense que ça peut intéresser aussi des entreprises.
Bien sûr, bien sûr.
Donc voilà. Donc, efficacement, si des gens veulent vous contacter ou veulent bénéficier de votre soutien technique, apport de réflexion, comment ça marche ?
Alors, au niveau des forces françaises de l'industrie, on a un site qui est très bien fait, forcesfrancaisesdelindustrie.fr. Nos coordonnées sont dessus. On est également présent sur les réseaux sociaux, Facebook ou LinkedIn, pour ne citer que. Donc voilà, après je peux laisser mes coordonnées, laisser mes coordonnées.
Ça va, on va s'occuper
oui,
avec
non, mais juste à vous.
Là, je pense que c'est bien. Hein.
Juste à vous.
Le téléphone, je ne vais pas le donner à tout le
non,
monde.
Non, puis pas l'antenne non plus, je pense que ça ferait des ordres. Voilà. Non, mais voilà. Après, mais voilà, des gens nous contactent régulièrement. Après, effectivement, il y a partie théorie. Et nous, on est dans la pratique aujourd'hui, voilà. Dans l'action. Donc, ça commence demain soir avec un premier dîner. Un autre suivra fin octobre ou début novembre. Et toutes les bonnes volontés sont bienvenues.
Voilà l'appel à réflexion aussi, hein, pas seulement l'appel mais aussi à participer et puis à réfléchir aussi sur l'avenir de cette région qui est une belle région. Les gens qui s'implantent, est-ce qu'ils ont une petite visite guidée de la région pour voir un petit peu les atouts avant de venir ? Vous y pensez à ça ? Faire un petit club de visite
Ouais, enfin, je n'ai pas de réponse à votre question. Les gens qui s'implantent sont des gens qui se seraient implantés coûte que coûte. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens investissez ci et là, c'est pas notre métier, enfin c'est pas notre vocation. Il y a des pouvoirs publics qui sont là et de toute façon je pense qu'un industriel va réfléchir à se mettre à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Est-ce que je dois me mettre entre le péage et Paris ou derrière le péage parce que c'est plus économique pour moi? Donc les gens se mettent où ils veulent. Je veux dire, voilà, nous notre mouvement il a pas vocation à ça. Le mouvement c'est de rassembler surtout les bonnes volontés autour de la réindustrialisation, des relocalisations, de l'arrêt des délocalisations. Voilà, les gens qui sont avec nous aujourd'hui sont des indépendants pour certains, des TPE pour d'autres, des PME, des ETI aussi. On a des investisseurs avec nous, on a des gens comme ça, mais ce sont surtout des gens qui sont déjà établis ou dont le projet est en train de sortir.
Ben voilà, merci Nicolas Donin donc pour ces explications. On n'est pas toujours au courant de tout ce que vous connaissez. C'est l'occasion de faire connaître au public et donc peut-être d'entrer aussi dans ces problématiques-là qui, pour la survie ou le développement d'une région, sont importantes pour tous ses habitants.
Hein. Oui, je suis d'accord.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.